moi, c'est cette soirée donc, du séminaire Champ Lacanien par excuser Sidia Scofaré, hein, puisque bon, il a pu venir ici pour des questions de santé. Voilà, il a fait savoir que ça ne lui était pas possible. Voilà, et donc nous aurons donc un seul intervenant ce soir. Et je veux également excuser Colette Solaire, qui avait annoncé aussi qu'elle ne pourrait pas être là. Bon, on va voir comment se déroule la soirée, éventuellement terminer un petit peu plus tôt, on verra comment, en fonction de vos questions, du débat qu'il va y avoir. J'espère qu'il y aura beaucoup de débats, parce que enfin, ce sont des questions intéressantes que vous abordez. Mais je vais vous laisser la parole, alors, avec un titre qui est donc « Le temps logique et la certitude ».
Voilà, merci. Donc oui, effectivement, j'ai voulu reprendre un peu ce qui avait déjà été un peu abordé avant, à partir d'un autre angle, donc ces textes qui restent toujours difficiles de temps logique. Donc avec la publication de temps logique, Lacan a voulu produire un acte après un long silence, une longue période d'abstinence, c'est-à-dire qui n'a pas publié Peine à la guerre. Après sa publication en 1945 dans les cahiers d'art, les textes seront pratiquement introuvables. Mais pour Lacan, c'est un repère constant dans son enseignement. Il faut prendre la mesure pour ses auditeurs avant 1966, quand il faisait référence aux textes, donc il n'avait pas pu les lire. Donc c'est vrai qu'il fait beaucoup de références tout au long de ses séminaires avant 1966, et du coup, personne n'avait pu vraiment lire ces textes. En 1966, après la publication, après plusieurs modifications, on retrouve ces modifications dans les livres d'Éric Porche, où il fait la comparaison de la quantité des modifications que Lacan introduit au texte, du texte de 1945, et celui qu'on connaît des écrits. Donc Lacan va inclure dans ses écrits, il va occuper une place précise à côté du texte sous le transfert. Donc il dit, c'était quelque chose qu'il a enlevé, qu'il s'agissait d'un essai de logique collective. Il reprend la proposition freudienne de la foule pour la traduire pour du collectif. Il dit, le collectif n'est rien d'autre que le sujet de l'individuel. Dans les mêmes périodes d'apparition du temps logique, Lacan va publier deux autres textes qui viennent les soutenir, donc la psychiatrie anglaise et la guerre, qui traite de l'expérience des petits groupes sans chef de Lyon. Il ne savait pas à ce moment-là que cette expérience allait lui servir justement pour proposer une organisation du travail des cartels lors de la fondation de l'école en 1964. L'autre texte est celui du nombre 13 et la forme logique des suspicions dans lesquelles Lacan établit la dialectique des rapports entre l'individuel et la collection, rapport avec les trop peu et les trop. Lacan va introduire donc la notion des sujets, notion qu'on ne trouve pas chez Freud et qui est essentielle pour ordonner son retour à Freud. Une première difficulté qu'il rencontre est celle de la représentation justement du sujet, les sujets pour Lacan et les sujets qui comptent dans les deux sens. Compter pour quelqu'un, y être compté. Un exemple de ces comptages est l'aventure réelle d'une rencontre du réel. En 1914, en Grande-Bretagne, Grande-Bretagne était tout entière tournée, ses yeux vers un superbe bateau de trois mâts nommé l'Endurance, nom qui était en quelque sorte une prédestination. Mais la guerre éclate à ce moment-là et Winston Churchill qui ordonne au capitaine du navire de poursuivre malgré tout cette expédition du pôle sud. donc l'expédition de l'Antarctique. J'assume cette aventure qui va se passer autrement que comme était prévu, c'est-à-dire que les caprices de la météo de l'été 1914 et 15 détruisent toutes les stratégies pour conquérir l'Antarctique. Et donc une autre aventure va commencer. Donc 400 jours de dérive au milieu des glaces et un long naufrage mené par Sir Skellington, qui réussit un exploit ahurissant, c'est ramener à bon port tous les compagnons de l'Endurance, de ces bateaux. La camp fait référence à cette aventure, le 28 mars 1962, dans son séminaire, où il parle de cette expédition pour reprendre un phénomène qui était au centre du dilemme des trois prisonniers, du temps logique. En effet, pendant l'expédition, le capitaine avait noté dans son cahier de bord qu'au milieu de la plus grande frustration, désorienté dans un paysage vierge, non encore habité par l'imagination humaine, vide de tout repère signifiant, comme dans son prison naturel, il rapporte que malgré qu'ils étaient trois, parce qu'à un moment donné de l'expédition, il décide de partir à trois pour aller chercher le secours et revenir sauver toutes les autres personnes. Donc, pendant ces traversées, il s'est compté toujours un de plus qu'il n'était, qu'il ne s'y retrouvait pas, où étaient passés les manquants. Les manquants qui ne manquaient pas. Tout effort de compter les suggérait toujours qu'il y en avait un plus, donc un moins. Donc quelqu'un dit, je cite, « Vous touchez là l'apparition à l'état nu du sujet qui n'est rien que cela, que la possibilité d'un signifiant de plus, d'un un en plus, grâce à quoi il constate lui-même qu'il y en a un qui manque. » Donc, ça c'était pour introduire un peu, il me semble que c'est le centre, et ce que Lacan va retrouver, il va développer dans un corps, après, quand il va reprendre le temps logique, la question du comptage. Donc, l'espace et le temps sont liés à l'existence de l'inconscient, d'abord topologique de Lacan, et toute manière d'aborder la question du point, de la ponctuation inscrit les temps dans l'espace. Chez Freud, la question de l'espace est restée en référence avec les modèles d'un espace psychique. La réalité psychique, pour Freud, ne suit pas les mêmes lois que la réalité matérielle. Les métaphores les plus connues chez Freud sont celles qui font référence à l'archéologie, aux vestiges architecturaux pour tenter de rendre compte des époques différentes. À cette réalité psychique, Freud lui a donné un caractère spatial, l'autre scène. La dimension temporelle a manqué à Freud. Lacan, en revanche, va réaliser un nuage entre les langages, l'espace et le temps. L'usage que Lacan fait du sophisme va dans ce sens-là. En effet, le temps logique est un nouveau sophisme. Mon petit sophisme personnel, c'est comme ça que Lacan l'appelle en 1962 dans les séminaires d'angoisse. Le sophisme ne tient pas compte que de l'espace, mais aussi du temps. La nouveauté de Lacan est d'introduire les temps dans la logique, alors que la logique ignore les temps. Il ne s'agit surtout pas de suivre les événements logiques dans un laps de temps, mais à l'inverse, faire de la fonction temps un événement qui engendre une certitude. Il s'agit de mettre en suspens l'attention à la réalité empirique, à celle du sens, pour laisser flotter les signifiants. L'état logique est une manière d'objectiver du temps à partir des escansions. C'est alors les liens entre les temps et la vérité qui s'exprime par la certitude qu'il produira. Sans les escansions, pas de temps logique. Elles servent d'épreuve. L'escansion est un temps d'arrêt Elles sont deux, elles sont différentes comme les signes des ponctuations dans l'écriture. Je vous rappelle que le dilemme des trois prisonniers. Le directeur d'une prison propose à trois prisonniers la liberté à celui qui arrivera à découvrir la couleur du rond qui accroche dans leur dos. Le rond sera choisi parmi trois blancs et deux noirs. Ils ne pourront pas communiquer entre eux, ni les résultats, ni les raisonnements. Ils n'auront aucun moyen de poser la vue sur leur propre dos. Après un certain temps, les trois prisonniers se dirigent vers la sortie et à tour de rôle, chacun donne la bonne réponse, blanc. Lacan appelle les trois temps par trois noms, instant, temps, moment, associés à trois qualités par trois verbes, voir, comprendre, conclure, mots différents de l'instance du temps. Les trois temps correspondent à des mots de subjectivation, la subjectivation et la transformation qui se vérifient suite aux escansions par lesquelles les trois combinaisons sont possibles, ainsi que trois formes des temps et également trois formes des manques. Donc, je vais résumer rapidement ces instants de voir, temps pour comprendre et moment pour conclure. Peut-être simplement dessiner les trois ronds. Donc, premier temps, instinct de voir. Forme impersonnelle du sujet qui dit on ne sait que, on sait que quand on voit deux noirs, on est blanc. Manque à voir, puisque ce n'est pas le cas, on ne voit pas deux noirs. Donc les sujets ne voient pas les deux noirs. Premier arrêt, première expansion suspensive. Deuxième temps pour comprendre. Que la subjectivation de la combinaison un noir deux blancs, si je suis noir, alors chacun des deux autres peuvent penser si je suis un noir, et le troisième sortirait. Elle introduit la forme d'un grand autre en tant que tel, c'est-à-dire que chaque prisonnier, pour pouvoir tenter de résoudre l'énigme, doit faire appel à un grand autre qui regarde la scène. Donc il y a un manque à comprendre qui est au centre. Deuxième extension suspensive, qui n'est plus de l'ordre du raisonnement, mais qui demande un acte du côté du sujet et pas du côté de l'autre. Et troisième, donc, le moment pour conclure. Les cas d'urgence, je m'affirme d'être un homme, de peur d'être convaincu par les sons de n'être pas un homme. Donc les autres ne sont pas déjà sortis, et donc il apparaît la hâte, j'ai mes hâtes de déclarer que je suis blanc. Il émerge le je en première personne. Le sujet de la hâte étant la liaison propre de l'être humain au temps. Donc, élément à conclure, puisque c'est l'acte qui anticipe la déclaration de la conclusion. L'urgence à conclure provient de l'objectivation d'un temps de retard. Il s'est dit blanc alors qu'il ne puisse plus reconnaître qu'il est noir. L'acte de conclure anticipe sous la certitude de l'assertion. Donc, la question qui taraude Lacan est celle du troisième temps, donc justement les moments de conclure. Il manque les facteurs qui précipitent des sujets à sortir. Quels sont ces facteurs ? La réponse de Lacan, il me semble, il va la trouver grâce à ses développements autour de l'objet petit a, lequel a une qualité qui n'a aucun autre objet, il porte les nombres. L'effet de l'objet petit a est immédiat, on le peut constater, il est comptable. Dès que l'objet petit a fait son entrée, le sujet s'est mis à compter. C'est un objet temporel, du fait que le sujet non seulement compte, mais il motive la précipitation c'est l'objet hâte, il est hâté. Donc la dimension de la hâte est constitutive de l'état du miroir. Avec l'état du miroir, Lacan donne raison à Freud concernant les moi. En effet, la prématuration de la naissance trouve une unité anticipée. Les moi se forment en anticipant une unité d'une image du miroir. Donc l'identification est une opération de transformation produite chez le sujet quand il assume une image. Dans les textes et les stades du miroir, nous pouvons déjà rencontrer une tension temporelle entre les retards et l'anticipation. L'anticipation apporte quelque chose de plus complexe que l'unité perdue de soi-même. Dans l'anticipation, le sujet dévance dans un mirage la maturation de sa jouissance, de sa puissance. Cette anticipation lui donne au stade du miroir une valeur d'identification dans le sens que l'image transforme les sujets. Il transforme les sujets malgré les décalages temporels entre deux fonctions, visuelle et retard biologique. La hâte signe une discontinuité temporelle, indispensable pour les autres temps. Il faut donc souligner que le stade du miroir n'est plus une simple donnée de la perception, mais un drame dont la poussée interne se précipite de l'insuffisance à l'anticipation. Deux termes qu'on trouve dans les temps logiques. Une pression temporelle, alors, tension temporelle, c'est la conclusion que Lacan tire du commentaire de l'homme loup. Il souligne comment les patients passent de l'emploi du moi au je par l'effet du temps. C'est dans les discours de Rome, en 53, que Lacan revient sur les cas de l'homme loup. Il applique les trois temps et conclut que Freud a annulé les temps pour comprendre, pour mener trop tôt les patients à un moment de conclure. Je cite, « La fixation anticipée d'un terme laissera toujours les sujets dans l'aliénation de sa vérité. » Je finis la citation. Lacan dresse ainsi une critique à Freud quant à la direction de la cure. Il a manqué les moments pour conclure. Le fait est que l'homme loup n'a jamais pu intégrer la remémoration de la scène primitive. Se remémorer un événement n'est pas suffisant. Il faut un acte pour conclure, pour que les souvenirs cessent de s'écrire. La qualité du nombre propre à l'objet A, les seuls qui ne trompent pas, est un indice de la certitude. De la certitude de quoi? Que ce n'est pas ça. La vraie lettre d'amour est celle qui dit, je cite, je te demande de refuser ce que je t'offre parce que ce n'est pas ça. Trois verbes, demander, offrir, refuser, les trois formes neuvo-romiennes, ils reprennent les trois formes des temps, voir, comprendre, conclure. Dans la même leçon du séminaire, ou pire, Lacan avance ses nœuds à trois, la racine des fondements de ses nœuds, et la règle qui dit jamais deux sans trois. Ainsi, le moment de conclure est essentiel pour donner un point d'arrêt au temps pour comprendre. C'est le moment de l'inversion de la demande, un désir, ce qui va précipiter les sujets dans une hâte pour conclure. Il y a un temps de latence et structurellement un retard par rapport à l'autre, car il lui faut un hiatus pour produire une traduction qui succède à ce qui précède. Les mots d'esprit et les modèles, en effet, Lacan dit ils sont trois, mais en réalité, ils sont deux plus un. La deuxième extension détermine les moments de conclure, tandis que les temps pour comprendre produit les doutes. Les moments pour conclure doivent sa certitude à une anticipation. L'escansion est un temps d'arrêt silencieux. La hâte pour conclure est fonction d'objet petit a. On peut déduire qu'il s'agit du regard qui est objectivé dans un décalage temporel entre ce qui serait vu réellement par l'autre et ce que le sujet a supposé être vu. la conclusion n'est pas le résultat d'une coïncidence, mais au contraire, la conclusion ouvre un hiatus entre ce qui est vu par l'autre et la rencontre manquée. Ce n'est pas ça. L'image de ce rendez-vous est le tableau de Velázquez, Las Meninas. Mais avant de continuer, il faut faire la différence entre la simultanéité et la synchronie. Lacan insiste sur l'usage du terme synchronie. Il refuse d'utiliser la simultanéité, qui n'est rien d'autre qu'un autre nom de l'éternité. En effet, dans l'éternité, le temps n'est pas mesurable. C'est un temps où rien n'arrive, un temps stationnaire, et rien ne manque, c'est une escroquerie, dit Lacan. L'éternité, qui est le temps de la plénitude, le temps de l'analyse, ne peut être le temps éternel. Autrement, il s'agit d'une éternité, comme on dit. La synchronie est le temps propre à l'inconscient freudien. L'heure de la vérité est une heure qui arrive trop tôt ou trop tard. Je cite, on conclut toujours trop tôt, mais c'est trop tôt et simplement l'évitement d'un trop tard. Cela est tout à fait lié au fin fond de la logique. Grâce à la question du temps logique et son lien avec l'objet petita, la frontière entre l'individuel et le collectif est abolie chez Lacan. Il va reprendre un binaire qui est resté en suspens chez Freud, individuel-collectif. L'introduction d'un troisième terme était nécessaire pour tenter de comprendre ce qui fait ces liens entre les individus. Un terme autre que les moi, bassin posé à Lacan, c'est le terme du sujet. Sujet qui est déterminé par les temps logiques. Pour garantir l'existence du sujet, il faut trois. Lacan tient beaucoup à cette limite comptable pour délimiter ce qui est une foule et ce qui est du collectif. La collectivité se définit d'individu au contraire de la généralité qui se définit comme une classe comprenant abstraitement un nombre indéfini d'individus. Il faut souligner les facteurs propres à la collectivité et qui échappent à la logique. Il s'agit de la structure temporelle qui s'appuie non sur ce que les sujets voient, mais sur ce que les sujets ne voient pas. D'où la nécessité de passer par un dispositif qui tienne compte du temps d'arrêt, c'est-à-dire de l'extension suspensive. L'apport de Lacan est là dans les nouveaux rapports à la vérité en tant qu'assertion conclusive, qui s'impose dans un moment de hâte. Lacan pose de cette manière les bases d'un nouveau rapport de l'individuel et du social par rapport à la course de la vérité. Faut le temps, dit-il en radiophonie. Sans une logique collective du temps, la course en solitaire ou de tous sera perdue. Il s'impose un comptage des individus noués par les collectifs. La trouvaille que Lacan fait du facteur temporel propre à l'objet petita, il dit ils sont trois, mais en réalité ils sont deux plus A. Et c'est bien en ceci que ces 2 plus A, au point d'où A se réduit non pas aux deux autres, mais à 1 plus petita. Cette notion de plus 1 est une notion topologique qui ne correspond pas à une identification individuelle visible dans un espace de 2 dimensions. C'est la logique qui a inspiré celle du cartel. C'est une logique qui ne s'incarne pas dans un individu, mais qui peut permuter, ce qui permet l'introduction de la dimension du désir dans un groupe. Lacan obtient un temps donc hétérogène parce qu'il est rendu par un processus du savoir. L'exigence d'une limite numérique reviendra plus tard en ce qui concerne la composition des cartels dont les chiffres ne vont pas excéder 5 ni 6. 5 plus 1. Donc le calcul intersubjectif deviendra trop compliqué et risquerait de céder la place au pacte et à un défaussé des enjeux personnels. dans la désignation d'un leader. Si une collectivité excède un certain nombre pour Lacan, elle ne peut plus rendre opératoire la fonction du temps logique. Dans ces cas-là, elle deviendra tout fou. Maintenant, je vais tenter donc de voir la question de la conviction à partir de comment l'escansion peut faire défaut. Et là où il n'y a pas d'escansion, du temps logique, des coûts, il me semble qu'on peut parler d'une conviction. Mais quand le troisième temps fait défaut, comme on dit les poètes, le temps ne fait rien à l'affaire. Quand on est con. En effet, il est propre d'un discours sans escansion, car la métonymie, un discours sans escansion, cesse de produire des effets de séparation et reste collé à une volonté de ne pas changer. Quand on entend parler un convaincu, il se dégage un invariant dans son propos, peu importe de quoi il parle, il pose toujours l'autre, le grand autre, comme menteur, et de l'autre côté, un autre qui ne mentira jamais. Les mondes se divisent donc entre un autre, nos trompeurs, qui se promène dans l'univers de la vérité, et de l'autre côté, un autre foncièrement trompeur, maudit, malin. La conviction, me semble, elle est propre du savoir absolu. Sa logique, on la connaît. Je sais qu'on sait que je sais. Pourquoi ? Parce que je l'en ai informé. Informé de quoi ? De ce qui n'est pas dit. Vous avez reconnu la logique du rat de la lettre, dite volée. Les rois efféminisés du fait qu'il ne sait pas qu'il détient la lettre. La conviction peut interdire l'acte d'interpréter. Elle peut devenir norme. Les dénis ne permet pas au sujet de produire une critique, mais de rester dans l'ordre du jugement du sourmoi. Les trois rondes dans la perversion ne sont pas nouées, mais c'est l'imaginaire qui prévaut. Il n'y a pas de trou dans la conviction. La conviction est une victoire contre la faille. Si quelqu'un pense différemment, il faut les convaincre, c'est-à-dire les vaincre. Les convaincus sont isolés, les sujets figés, inamovibles et indiscutables. Cette fixité provient d'un manque d'élasticité. On trouve ces traits dans la perversion. L'objet imaginaire possède une solidité, c'est un imaginaire très particulier. Dans la conviction, il y a une action souterraine du surmoi. Cette action s'oppose à l'extension temporelle. Il transforme la souffrance en jouissance et les manques en plénitude. Un exemple de cette fixité est le cas d'Égide. André Gide, l'instant des voir vient subjectiver ce qu'on peut pas voir. Rappelons les trois étages de la maison de la rue de l'Éca à Rouen. Elle fut le théâtre d'une double scène. La première, la scène de séduction par la tante, quand Gide était encore un enfant, tandis que la seconde scène va doubler la première. La scène propre d'un instant de voir se déroule quand Gide a 13 ans et sa cousine 15 ans. Un soir, Gide retourne à l'improviste à cette fameuse maison, un clandestin, et il fut servi. Il aura accès à l'escalier de la connaissance du bien et du mal, en traversant les trois étages de la maison. Dans les premiers, se situaient les bureaux de l'oncle Mille, une porte fermée en permanence. Au deuxième étage, se trouvait la chambre de l'épouse infidèle, sa tante Mathilde. Et au troisième, la chambre des enfants, où Gide découvrit Madeleine à genoux et en pleurs. Donc Gide va écrire « Cet instant décida de ma vie ». Donc, conclusion anticipée, et pas d'extension possible, un arrêt sur l'image et dès lors de nos rencontres traumatiques à ce moment-là. Un autre exemple de la conviction, nous le trouvons dans le livre de Gérard Haddad, dans La main droite des dieux, psychanalyse du fanatisme, qui est apparu il n'y a pas longtemps. Il tente d'analyser dans ses livres les phénomènes du fanatisme à partir de la question de l'adhésion totale à une croyance pour laquelle il devient légitime de mourir et surtout de tuer. Il pointe des questions qui nous concernent, notamment les liens que les fanatiques entretiennent avec l'objet. Il en distingue quatre, les nationalismes, le racisme, l'idéologie totalitaire et les fanatismes religieux. Mais il pointe à la fin du livre, c'est ça qui m'intéressait, c'est l'impossible acceptation de la castration et du renoncement à la mère propre du fanatique. La mère toujours étant sacralisée, mais au moment de conclure, donc et à date, nous livre une interprétation digne, mais simple, d'un moment de passe, parce qu'il revient sur son analyse avec Lacan, et il raconte la scène et les moments où il était en analyse et il y croyait très fort. Et il dit, j'étais fanatique et son versant idéologique était tourné vers les stalinismes. Et donc il dit, il y a un moment donné, dans une séance, il lui dit à Lacan qu'il était... Position subjective, alors je reprends. Position subjective qui l'a longtemps paralysé, il dit, la construction de son livre est une restitution de sa cure avec Lacan à partir des moments cruciaux tels qu'une image spéculaire fragile, une rivalité fraternelle, d'une aspiration au lendemain qui chante. Et un attachement édipien, enfant, il dit qu'à la fin de la cure, les moments de conclure a été confronté justement à la certitude révolutionnaire, il dit. Donc il fallait choisir. Donc il se retrouve à ces moments du rendez-vous. Il dit, un jour, il raconte comment il trouvait tout à fait normal que Staline propose des traitements neuroleptiques aux opposants politiques. Face à quoi Lacan gronda. Donc je cite, je ne peux me taire plus longtemps. Et il a fallu, il dit, des temps pour comprendre mon aveuglement d'Adat. Donc je ne peux plus me taire plus longtemps, a fait scansion suspensif pour Adat, c'est dire de Lacan, a mis en question la certitude révolutionnaire, un manque à savoir s'introduit. Ce n'est pas ça, il ouvre une voie des passages, il me semble. Je cite sur ces questions de la voie des passages par rapport à ce que Lacan a dit au séminaire 5, les formations de l'inconscient. Et donc il dit par rapport à. Il me semble que c'est la question de l'escansion, comment faire une escansion dans ce qu'on dit lors d'une cure pour produire justement une interprétation. Que Lacan dit dans les signifiants pleinement développés, qui est la parole, il y a toujours un passage. Ces passages de l'un à l'autre qui constituent l'essentiel de ce que nous appelons la chaîne signifiante. Ces passages en tant qu'évanescents, c'est la même qui s'est fait voix. Je ne dis même pas articulation signifiante, car il se peut que l'articulation reste énigmatique, mais ce qui soutient les passages est la voix. Donc, séminaire 5, la voix, ce moment-là, à cette époque, pour Lacan, n'était pas encore l'objet petit a. Mais il me semble que cette interprétation que Adat propose, ce n'est pas tellement l'essence de ce que Lacan a dit, mais ce que Lacan a dit est devenu en quelque sorte une voix dans le sens de l'objet petit a. C'est-à-dire que c'est l'extension de la parole qui crée la voix comme objet petit a. Je cite, c'est comme coupure et comme intervalle que les sujets se rencontrent au point terme de son interrogation. Donc, l'objet petit a prend la forme des coupures. Les phrases interrompues chez le psychotique montrent bien la différence entre la grosse voix du surmoi et celle du délire. Chez le sujet psychotique, le sujet est intéressé, mais il disparaît. ça s'impose à lui. Pas d'extension de la psychose entre un signifiant et un autre. L'exemple Schreber et les voix des oiseaux est limpide, il me semble, là-dessus. Il appelait ça son passe-temps. Comme il appelait, les oiseaux ne comprennent pas les sens des mots, mais l'homophonie. Donc, une analogie des sons, Santiago, Cartago, etc. Les oiseaux lui parlent arbitrairement. Les passages à l'écriture, il faut les souligner pour Schreber, ces passages que l'on retrouve souvent chez les personnes victimes des tortures et des violences et traumatisées, ils s'écrivent souvent comme une tentative de faire taire la voix, une mise à plat. Quand on écrit, on regarde et on donne à voir. Ceci a un effet d'apaisement très important. Donc il produit une connexion entre un objet pulsionné et un autre. Donc il faut les temps, le sujet est aliéné au nombre qui les compte, avec qui il peut compter son manque. Nous sommes sujets au compte, l'unité adaptée au sujet, la plus adaptée pour les sujets, Lacan l'a appelé les plus un, ou un en plus. La première expression, plus un, paraît chez Lacan en 1956, en situation de la psychanalyse et formation du psychanalyste. Il parle de l'imparité du trois. Il rappelle J de sa traduction d'un palud, le numéro 2 se réjouit d'être un père. L'introduction des 1 en plus va permettre à Lacan de revenir sur ses textes antérieurs et vérifier ce qu'il avait proposé dans son texte « L'état logique » et la lecture du binaire individuel et collectif. Le comptage est inhérent à la question du sujet. Freud écrit « Le collectif n'est rien que le sujet de l'individuel ». J'ai commencé par là. Il est élargi parce qu'il introduit une différence radicale entre la foule freudienne et sous ses effets collectifs. De plus, il met en tension la question du moi et introduit la question du sujet. Nous pouvons constater que la question du sujet est solidaire chez Lacan à la question du comptage. Et si on suit cette logique, on peut trouver plusieurs exemples. Dans l'hommage qu'il fait à Marguerite Duras, les commentaires qu'il fait de Lowell Wittgenstein, il met au centre son commentaire justement de cette scène d'une remémoration où Lacan dit justement c'est proprement les ravissements des deux à une danse qui les soulève. Sous les cieux de Lol, troisième, avec qui dans les balles va surgir justement les raptes de son fiancé par celle qui n'a eu qu'à soudain apparaître. Donc, c'est Eric Porch aussi qui fait un commentaire justement de cette scène à partir des commentaires des trois temps logiques où ils reprennent les textes de Marguerite Duras et ils montrent comment c'est ce qu'il décrit, c'est une scène justement, c'est le regard paranoïaque où Lowell, il y a les trois personnages qui vont se mêler dans trois scènes différentes. Mais il a toujours ces questions de « il faut se compter trois ». Et que c'est ce troisième qui va, en quelque sorte, soutenir la question paranoïaque, en quelque sorte. Donc, et 2 plus 1, la structure même du neuromien, implique l'un en plus. Si l'un manque, un, les deux autres sont libérés, dont chacun nom joue un rôle. Autrement, ils ne tiennent pas ensemble. Les noms propres peuvent faire fonction des un, il peut dessiner une identité individuelle. Lacan parlait de ces malaises ressentis par certains sujets qui sévit comme un sans nom, ou manière de se mettre à l'abri d'une extension imaginaire. Lacan, par rapport à cela, a montré la voie de l'importance de renoncer. Si l'on veut être analyste, à se faire un nom, d'atteindre une renommée, mais plutôt assumer la castration symbolique de son nom, de les réduire à un signifiant quelconque au nom commun. Il a donné l'exemple d'une dépersonnalisation quand il écrit son nom, comme plusieurs fois ça a été cité, la tré-tan, la tan. Donc, temps, espace. En effet, le nom propre pour Lacan est une fonction volatile qui est faite pour combler un trou, pour obturer pour lui, donner une apparence des sutures. Dans les séminaires de 1965, les problèmes cruciaux, Lacan interprétait Freud et l'exemple qu'il donne, c'est le fameux oubli du peintre Orvieto, où justement il revient à partir de la structure des toits logiques pour interpréter à nouveau la difficulté de Freud de voir dans cet oubli des faits que donc ce qu'ils avaient perdu, les morceaux qu'ils avaient perdus dans son souvenir, c'était un lien justement avec son nom propre, donc Sigmund, et donc c'est Freud qui était confronté. Il était regardé par les portraits des Signorelli et les trous de l'oubli, en tant que l'apparition, je cite, du point d'émergence dans le monde de ces points de surgissement, par où ce qui ne peut dans les langages se traduire que par les manques, il vient à l'être. Voilà. Merci.